France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. La dette que les uns et les autres ont à l'égard de Gilbert Kate Chesterton. Chesterton, ce penseur sans cesse aux aguets qui dénonçait les méfaits de la raison avec une intelligence exceptionnelle, cet écrivain dont on peut faire un bon usage tout en étant en désaccord avec ses positions politiques, parfois très dures. Cet homme très conservateur, cet adepte, ce défenseur du nonsense au service de la recherche du sens le plus profond, était au menu de réplique le 3 mai 2010 sur France Culture.
Réplique, l'éblouissant Chesterton avec Jacques De Witt et Basile de Coche. Gilbert Keith Chesterton est né à Londres en 1874, il est mort en 1936. Polygraphe infatigable, il a publié plus d'une centaine d'ouvrages, essais, romans, poèmes. Je suis loin de les avoir tous lus, mais certaines de ses réflexions m'accompagnent et m'encouragent en ces temps bien pensants. Ainsi par exemple, on pourrait définir la tradition comme une extension du droit de vote du passé. Elle consiste à accorder le droit de suffrage à la plus obscure de toutes les classes, celle de nos ancêtres. C'est la démocratie des morts. La tradition refuse de se soumettre à la petite oligarchie de ceux qui ne font que se trouver par hasard sur terre. Ou encore, nous autres modernes, nous devons réclamer du nouveau parce que nous n'avons pas le droit de réclamer de l'ancien. Cette attitude repose sur la présomption que nous avons emprunté aux idées du passé tout ce qu'elles pouvaient avoir de bon. Mais nous n'avons pas gardé tout ce qu'elles pouvaient avoir de bon. Sans doute même, n'avons-nous rien gardé de ce qu'elles pouvaient avoir de bon. Il y a ici un besoin de complète liberté de restauration autant que de révolution. Ces paradoxes m'ont réveillé des évidences historiques et philosophiques dans lesquelles je baignais. Ils m'ont arraché à l'emprise du « cela va de soi ». Ils m'ont appris à habiter le temps autrement. Je leur dois de ne plus mettre à la queue-leu le passé, le présent et l'avenir. Mais je ne suis qu'un Chestertonien amateur et je voudrais profiter de la réédition de ces merveilleux livres que sont Hérétique et Orthodoxie, pour demander à deux lecteurs savants, Jacques De Witt et Basile de Coche, en quoi consiste leur dette à l'égard de Chesterton. Jacques De Witt.
Oui, merci de me placer d'emblée dans une position aussi avantageuse. Je ne suis pas du tout un Chestertonien érudit, je n'ai pas tout lu, je vais vous me dire en tout cas comment je l'ai découvert, par quel biais. Bon, j'avais lu jadis en anglais un nommé Jeudi, qui m'avait laissé une impression assez mitigée. J'avais lu les histoires du père Brown, qui me paraissent toujours très savoureuses. Et puis, il y a eu une rencontre, un éblouissement, pour reprendre le titre de l'émission, mais qui porte sur la découverte de trois livres d'ailleurs, on peut dire, du premier Chesterton, du jeune Chesterton. Hérésie, Orthodoxie et Le Défenseur. Puis j'ai complété mes lectures, notamment en découvrant il y a à peine quelques mois son livre sur Robert Browning, qui à mon avis est de la même veine. Et Chesterton n'a pas cessé de nourrir ma réflexion, j'y reviens sans cesse. Et je n'ai pas épuisé donc la sève qu'on peut trouver dans ces livres. Alors qu'est-ce que, en quoi consiste mon regard et ma rencontre au fond avec Chesterton, moi comme philosophe venu de la phénoménologie en gros et Chesterton. Je dirais d'abord que bien sûr on est ébloui par sa verve, par sa drôlerie. Enfin ça c'est pas besoin n'est pas nécessaire de le dire. Moi je suis aussi impressionné, ou j'ai été impressionné tout de suite par son audace philosophique et par sa rigueur. Je crois qu'il faut prendre Chesterton au sérieux comme penseur. Même si, en même temps, et on devra approfondir ça, même si une de ses notions fondamentales et d'éléments fondamentaux de sa sensibilité est le nonsense. Mais il y a une pensée rigoureuse, selon moi, en tout cas dans ces trois livres que je viens de citer. Alors, sensibilité qui est proche de la mienne, qui est proche précisément de ce que j'ai développé au fil d'articles qui viennent ou qui vont sortir dans mon livre La manifestation de soi. Chesterton est pour moi par excellence le penseur du « il ne fallait pas ». C'est un des thèmes qui reviennent dans mon livre. Comme on dit « il ne fallait pas », quand on reçoit un beau cadeau, on dit « il ne fallait pas », mais de la même façon, d'une manière métaphysique, ontologique, il ne fallait pas qu'il y ait l'être, il ne fallait pas qu'il y ait le monde, il ne fallait
penseur
pas qu'il y ait
le penseur de la contingence.
Le penseur de la contingence, voilà, je n'osais pas avancer
oui,
le mot, mais c'est le mot que j'emploie,
il y
effectivement.
Il n'y a pas de nécessité.
Il ne fallait pas, il n'y a pas de nécessité, et donc il y a une attitude qui est à la fois poétique et métaphysique, consistant à imaginer, parce que c'est aussi un acte d'imagination, imaginer que donc le monde tel qu'il est, et pas le monde en général, mais les choses, les êtres singuliers, eussent pu ne pas exister. Et cette manière d'imaginer, de se rendre compte qu'il n'y a pas de nécessité, contrairement à ce qu'affirme la pensée moderne, parce que c'est en ça que Chesterton réagit à tendance la pensée moderne. Je le cite, « Le monde moderne, tel que je l'ai découvert, adhérait unanimement au calvinisme moderne. Il fallait que les choses fussent ce qu'elles sont. » Eh bien, justement, il ne faut pas que les choses soient ce qu'elles sont. Mais alors, lorsqu'il y a cette découverte de la contingence chez d'autres philosophes, je songe à Sartre,
eh oui.
Je songe à Cioran, c'est l'effroi, c'est l'écrasement, la contingence, c'est la tristesse et le pessimisme.
C'est la nausée même.
Et c'est la nausée, voilà, c'est la nausée chez Sartre,
oui. Hein,
n'est-ce pas? Et justement, chez Chesterton et d'autres, je cite aussi Henri Raynal, enfin écrivain injustement méconnu, il y a autre chose, le sens de la contingence des choses, mais un émerveillement, une joie, un bonheur. Donc, il ne fallait pas que cela soit, mais cela est, et nous nous en réjouissons. Voilà, donc, l'émerveillement du non-être fait ressortir la merveille de l'être. Voilà, enfin, je pourrais encore continuer,
non,
mais
c'est très
ma
bien.
Dette
alors,
principale...
Est-ce que vous pensez...
Donc, voilà.
Je donne la parole tout de suite à Basile Decoche, mais est-ce que cette phrase de Chesterton illustre ou non ce que vous venez de dire? Elle se trouve dans l'orthodoxie. C'est une chose que de raconter une entrevue avec une gorgone ou un griffon, une créature qui n'existe pas. C'en est une autre de découvrir que le rhinocéros existe bel et bien et de se réjouir de constater qu'il a l'air d'un animal qui n'existerait pas.
Ah, c'est une des phrases les plus magnifiques, des plus typiquement chestertoniennes
voilà.
Qui existent. Ah oui, ça c'est...
Bon, alors, Basile Decoche.
Alors, ben, écoutez, moi, ma principale dette à l'égard de Chesterton, c'est ce qui a été pour moi, si j'ose dire, la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'avec lui, ma religion, le christianisme, ce n'est plus uniquement une religion sinistre, celle du péché, de la vallée de larmes. C'est une religion d'émerveillement. C'est une religion de joie perpétuelle. Et ça m'a fait vraiment plaisir parce que moi, j'ai toujours été attaché, j'ai écrit beaucoup de bouquins que je ne citerai pas, parodiques, Histoire universelle de la pensée de Cro-Magnon à Stevie.
Donc vous les citez.
Non, mais c'est un exemple. J'ai fait des parodies de journaux, etc. Ce que j'ai trouvé chez Chesterton magnifique, c'est que l'esprit est au service du Saint-Esprit, le nonsense est au service de la recherche du sens le plus profond. Il y a dans le Paradoxe ambulant un chapitre qui s'appelle « Défense du nonsense ».
Voilà.
Et le paradoxe est au service de l'orthodoxie. Donc, voilà, c'est tout ça que j'apprécie infiniment là-dedans, c'est-à-dire le vrai nonsense. Ça signifie que le sens de la vie nous est caché et que nous ne pouvons y accéder, en fait, qu'en passant par le royaume des elfes, comme il dit, c'est-à-dire, comme disait Jésus, en redevenant des enfants. Et c'est une illumination je disais, c'est une deuxième bonne nouvelle. Et c'est résumé. Pour moi, la plus belle phrase de Chesterton, celle d'ailleurs qu'en général, j'ai beaucoup de mal à expliquer, puisque les gens la comprennent de traviole, comme si c'était une phrase d'Erasme. Le fou est celui qui a tout perdu sauf la raison.
Nous allons commenter cette phrase, mais j'en viens à ce chapitre sur le nonsense, dont je sais qu'il compte beaucoup pour Jacques David, Défense du nonsense, qui se trouve regroupé dans le paradoxe ambulant, oui. 59 essais choisis par Alberto Manguel. Alors, je cite quelques extraits que vous pourrez commenter, Jacques David.
Et moi aussi.
Et vous aussi, Aziz de Coche. Vous allez commenter tous les deux. Voilà, vous les commentez tous les deux. Mais rien de sublimement artistique n'a jamais surgi du simple art, de même que rien d'essentiellement raisonnable n'a jamais surgi de la pure raison. Il faut toujours un riche terreau moral pour tout grand développement esthétique. Et voici une phrase que j'aime beaucoup. Le principe de l'art pour l'art est un très bon principe s'il implique qu'il existe une différence fondamentale entre la terre et l'arbre qui plonge ses racines en elle, mais s'il implique que l'arbre pourrait aussi bien pousser les racines en l'air, c'est un très mauvais principe. Et puis, ceci, la religion cherche depuis des siècles à ce que l'homme exulte devant les merveilles de la création, mais elle a oublié qu'une chose ne peut être totalement merveilleuse tant qu'elle reste raisonnable. Tant que nous considérons qu'un arbre est une chose évidente, naturellement et raisonnablement créée pour qu'une girafe la mange, nous ne pouvons pas convenablement nous émerveiller devant lui. C'est lorsque nous y voyons une vague prodigieuse du terreau vivant s'étirant vers les cieux sans raison particulière que nous mettons chapeau bas au grand étonnement du garde du parc. En fait, tout a un autre côté, à l'instar de la lune, protectrice, la lune donc, protectrice du nonsense. Jacques Deville.
Oui, c'est un passage magnifique qui est tout à fait central pour moi aussi et qui permet de préciser donc ce qui a été dit tout à l'heure, la religion. Hein, vous avez dit une autre manière de voir le christianisme. Là, il le dit explicitement et il fait référence à des théologies ou des philosophies ou des écrivains. Il y a une allusion claire aussi à des écrivains comme Bernardin Saint-Pierre qui se sont efforcés de montrer que dans le monde, dans la nature, tout a une raison. Donc s'émerveiller devant la finalité, le fait que l'arbre est censé servir de pâture à la girafe. Et il dit non, c'était une fausse piste justement, il faut faire le contraire. On ne peut pas être enthousiaste, émerveillé devant une chose entièrement sensée, raisonnable. Donc il faut retrouver ce sens du merveilleux.
Mais pourquoi le lier?
Et alors je songe aussi quand il dit chapeau bas, hein, nous retirons, c'est délicieux d'ailleurs. Donc il faut imaginer une scène, donc quelqu'un dans un square ou dans un parc qui tire son chapeau et le gardien est ébahi.
Oui, bien.
Ça me fait songer à un thème célèbre de la peinture chinoise. Il y a le peintre ou poète Moufou s'inclinant devant le rocher pour le vénérer. Simon Lay cite souvent ce passage.
Précisément, oui. Et il a intitulé un de ses recueils L'ange et le cachalot, d'après une citation de Chesterton, où Chesterton dit il est un peu facile d'accorder les anges avec les nuages ou les prairies avec le ciel bleu. En revanche, quelqu'un qui est capable d'accorder dans sa pensée l'ange et le cachalot doit avoir une sérieuse explication de l'univers.
Oui, mais quel rapport faites-vous entre cet émerveillement devant le caractère déraisonnable, en quelque sorte, de la création, l'impossibilité où nous sommes de l'enfermer dans notre logique, dans le principe de raison, ou de le principe d'utilité, etc., et le christianisme? Pourquoi cela procède-t-il, selon vous, d'une vision chrétienne du monde? En quoi cela procède-t-il d'une vision chrétienne du monde?
Mais moi, je suis un peu embarrassé. J'aimerais bien consulter des théologiens. Et moi, il me semble qu'il y a là une autre théologie de la création, peut-être. Donc, faire comprendre qu'il ne fallait pas que Dieu créa le monde, que c'était un acte gratuit de générosité, un don.
D'amour.
D'amour, voilà. Et non pas simplement l'acte d'un démiurge qui aurait machiné l'ensemble de l'univers. Voilà.
Ce que je crois, c'est que, bien sûr, on comprend orthodoxie après avoir lu Hérétique, c'est-à-dire que ce que raconte Chesterton en introduction de orthodoxie, c'est que c'est le bouquin qu'on lui a réclamé après que dans Hérétique, il a eu dézingué tous les penseurs organiques de l'Angleterre victorienne, puritaine, protestante, etc. Donc, on lui a dit, c'est bien beau de dire du mal de tout le monde, de se moquer de George Bernard Shaw, de Kipling,
de Wells.
Voilà, de Wells, et de leur monde rapetissé, comme il disait un peu méchamment. Mais il faudrait que tu nous montres positivement ce que c'est. Et du coup, 3 ans après, il s'est lancé à faire Orthodoxie, qui est la version positive de ce recueil de critiques assez sévères et hilarantes sur tous les grands penseurs de son époque. Et en fait, son cheminement, parce qu'il est quand même né protestant dans un pays protestant, et c'est seulement après 40 ans qu'il se fait baptiser, mais on voit bien que déjà quand il écrit Hérétique et qu'il se moque de la pensée dominante de la fin du 19e siècle, et ensuite, bien avant de se convertir, quand il écrit Orthodoxie, il est déjà sur la voie de la conversion à ce que j'appellerais volontiers la vraie religion.
Mais alors, oui, mais justement, vous défendez cette vraie religion, donc, mais là encore, je voudrais comprendre. Je voudrais comprendre, parce que je me dis, après tout, vous citez Simon Laisse, Simon Laisse lui-même cite un peintre ou un poète chinois, oui. Donc où est-ce qu'il y a de spécifiquement catholique dans l'émerveillement de Chesterton devant la création? Un grand poète catholique comme Claudel s'est réclamé de Chesterton.
Ah bon?
Bien sûr, ah oui, il a même traduit le chapitre d'Orthodoxie,
oui,
sur la démocratie des morts. Il a été fasciné par cette expression, la tradition c'est la démocratie des morts, et donc il est devenu chestertonien. Bon, et Claudel avait lui-même cet appétit de la création, ce oui au monde. Mais vous qui faites au fond profession de théologie, expliquez-nous un peu mieux en quoi tout ça est catholique.
Je ne fais pas profession de théologie, je fais profession de foi, c'est autre chose.
Oui, profession de foi, excusez-moi, l'expression est plus juste. Je m'excuse.
En ce qui me concerne, je ne peux dire que mon expérience, c'est-à-dire que c'est un... J'étais déjà censé être catholique, mais je voyais, comme je le disais, quelque chose d'un peu sombre, d'un peu triste, cette vallée de larmes. Et il y a au contraire... Parce qu'il y a, enfin bon, je ne sais pas, dans la nature humaine, une sorte de nostalgie de l'absolu, qui fait que nous sommes sans doute la première époque où il y a, dans l'Occident développé ou décadent, moins de croyants que d'agnostiques ou d'athées. Mais c'est quand même un truc qui a taraudé l'homme depuis très longtemps, le besoin de surnaturel, la nostalgie de l'absolu qui mène à la religion. Mais ma religion à moi, elle a été illuminée par une sorte de grand rire dionysiaque qui est celui de Chesterton. Et d'ailleurs, il explique que... Mais oui, car il lui-même parle comment dirais-je, du paganisme de la religion chrétienne.
Oui, que le christianisme, est effectivement, le catholicisme dans le christianisme a en quelque sorte pris sous son aile le paganisme.
Exactement.
Ce que n'ont pas fait les autres versions du
christianisme.
Il l'a recyclé, oui.
Et l'a dompté.
J'aimerais bien...
oui, Jacques Devitt.
Donc dire quelque chose, là vous avez fait référence évidemment à ces deux livres dont je disais au début que c'était... Il faisait partie de ceux qui comptaient, continuent à compter beaucoup pour moi, Hérétique et Orthodoxie. Alors là, je voudrais faire quelques remarques là-dessus. D'abord, vous dites, il dit du mal de toute une série de penseurs, écrivains. Je ne trouve que c'est un peu injuste. Il y a évidemment...
C'est injuste ce que je dis ou ce qu'il dit ?
Non, ce que vous dites.
Ah, d'accord.
Parce qu'il y a autre chose, il y a l'effort pour analyser, pour comprendre de l'intérieur, je dirais, des égarements. Hein, bien sûr, ce sont autant de formes d'égarement. Enfin, il faudrait les passer en revue. Il y a notamment ce qui rejoint ce qu'on peut appeler aujourd'hui le relativisme. Enfin, qui était, bon.
Alors, l'idée de progrès aussi est un égarement.
L'idée de progrès. l'idée d'évolution.
L'idée d'évolution. Bon. Oui.
Alors, je crois que c'est intéressant qu'il ait d'abord écrit un livre appelé Hérétique et puis écrit un livre appelé Orthodoxie. Oui. Parce que c'est comme ça que les choses se sont passées, par exemple, pour saint Augustin. Bon, il a été confronté à des hérésies, le pélagianisme, et confronté à ce qui lui apparaissait comme un égarement, comme il a conçu, forgé le concept de péché originel. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, à savoir que l'hérésie est un écart par rapport à une orthodoxie préalable qui serait bien installée, etc., c'est le contraire qui se passe. Et chez Chesterton, c'est ça qui se passe. Donc, il se confronte à différentes hérésies. Oui. Et en même temps, c'est une autocritique, parce qu'il est passé lui-même à travers ça, d'une certaine façon.
Mais c'est au bout de cette réflexion sur les différentes hérésies qui découvrent son orthodoxie à lui.
Alors, c'est comme une espèce de paradoxe, ou d'hérésie ultime. Enfin, comme
c'est intéressant que vous citiez l'exemple de saint Augustin, parce que la théologie, pour ce que j'en comprends de Chesterton, n'est pas du tout augustinienne. D'ailleurs, il a consacré à la fin de sa vie un très bel essai à saint Thomas d'Aquin. Il serait plutôt thomiste. Et il y a l'idée d'une réconciliation avec la nature, justement. Là, nous sommes très loin du climat augustinien. Et alors, peut-être, je risque cette hypothèse. Peut-être il y a aussi cette idée chez lui que la création tout entière est de l'ordre du miracle. Et donc, elle inspire, et c'est un mot qui vous est cher, Jacques de Witte, une sorte de gratitude. Et donc, la première prière chestertonienne, ce serait au fond, justement, une fois qu'on est délivré du principe de raison, l'action de grâce.
Voilà.
Une sorte d'action de grâce, en effet, pour cette merveille qu'est le monde. Une merveille inexplicable. Et en tant que tel, rendu à Dieu, peut-être.
Mais ça rejoint un des chapitres de mon livre qui s'intitule, si je me souviens bien, « Don, dette et gratitude », qui avait paru d'abord dans la revue du Mons. Et justement, si on admet qu'il y a un don et que la création est un don et que la vie que nous avons reçue de nos parents est un don, bon, donc nous sommes dans une situation de dette originairement. Mais à partir de là, il y a plusieurs attitudes possibles. Il y a plusieurs manières de vivre la dette. Certains la vivent comme écrasante et donc disent par exemple, voilà pourquoi est-ce qu'on m'a fait la sale blague de me mettre au monde ou des choses comme ça. Donc plutôt le ressentiment contre le monde, contre la vie. Mais une autre attitude existentielle, et qui est précisément, oui, celle de Chesterton, qui est la mienne, enfin, de quelques autres, c'est la gratitude, la reconnaissance, qui est aussi quelque chose qui allège. C'est une autre manière de vivre la dette. Voilà. Et dans la modernité, on pourrait dire, ou dans une certaine tendance dominante, il faudrait qu'on se débarrasse de toute dette, parce que toute dette en soi serait écrasante. Or, la dette peut être vécue, reprise sous forme de gratitude, comme quelque chose qui nous porte.
Mais c'est même, je dirais même que c'est plus que la gratitude, c'est un abandon joyeux, un abandon magique, un abandon enfantin, que prêche finalement Chesterton.
Et un abandon enfantin et en effet une inquiétude devant une rationalité sans limite. Et je voudrais revenir, Basile de Coche, à la citation que vous avez donnée. Elle est très connue. C'est une des plus belles de Chesterton.
Oh oui.
Et j'aimerais aussi que nous la commentions un peu. Le fou donc n'est pas un homme qui a perdu la raison. Le fou est un homme qui a tout perdu, sauf la raison. Le fou que nous connaissons par expérience, dit-il, est en général un raisonneur, et souvent un raisonneur éloquent. Il est enfermé dans la maison claire et lumineuse d'une seule idée. Son esprit est aiguisé jusqu'à un point douloureux. Une raison expansive et exhaustive associée à un sens commun rétréci. Telle est la formule de la folie, de la démence pour Chesterton. Et il dit, si vous ou moi avions affaire à un esprit en passe de se détraquer, il faudrait avant tout nous soucier non pas tant de lui fournir des arguments que de lui donner de l'air, de le convaincre qu'il existe quelque chose de plus pur et de plus rafraîchissant que l'asphyxie d'un seul argument. Je trouve ça absolument extraordinaire.
Mais c'est admirable du point de vue du style et du point de vue de l'idée. Et cette simple phrase, le fou, est le contraire de ce qu'on croit, puisque la définition banale, c'est le fou, c'est celui qui a perdu la raison. Arriver à retourner le gant pour dire une chose aussi profonde, c'est-à-dire ce dont vous parliez, le fou enfermé dans cette maison de la raison, je trouve ça magnifique. Et pour moi, ça veut bien dire... c'est bien le contraire, le nonsense, c'est bien le contraire. C'est-à-dire c'est la meilleure façon pour nous d'assumer notre incapacité naturelle à comprendre le monde qui nous inclut et qui nous comprend.
Et qui nous déborde, en quelque sorte, aussi.
Parce que le contenant ne peut pas... Ouais. Le contenu ne peut pas comprendre le contenant.
Jacques De Witte.
Oui, il y aurait tout un commentaire, une longue exégèse à faire de cette phrase.
Autant dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi.
Ah, il y a beaucoup de recoupements. De toute façon, ce sont des nuances et des précisions. Oui, de quelle raison s'agit-il, hein? Bon, ça, on l'a compris, c'est la raison raisonnante, la raison qui, justement, cherche partout une cause, une finalité, une nécessité, aussi raison calculatrice, raison qui démasque derrière toute attitude généreuse un calcul d'intérêt, par exemple. Donc une raison utilitariste, pour parler justement comme la revue du Mons. Donc, et en effet, c'est cette raison-là qui peut conduire à la folie si elle n'est pas mise à l'abri par des garde-fous, pourrait-on dire, le rapport à la réalité ou à des... Mais il me semble qu'il y a une autre raison. C'est ça, en ça que j'apporterai une nuance, une autre rationalité, la rationalité contemplative, plutôt d'origine grecque. La raison qui s'ouvre au monde, qui, évidemment, le monde en tant qu'il est effectivement inconnu, difficile à appréhender, mais qui n'est tout de même pas entièrement inintelligible non plus. Donc raison qui est curieuse de l'intelligibilité du monde. Alors, c'est d'ailleurs aussi ce qu'il dit lui-même à propos de Browning, où il dit, voilà, donc dans chacun des chapitres de l'anneau et le livre, il y a l'attitude consistant à comprendre les êtres de l'intérieur. Mais c'est la raison, ça, je dirais. Et alors, il y a, sur le thème de la raison, on peut ressonger ou relire la toute première histoire du père Brown, que j'ai encore relu hier. Et bon, on ne va pas raconter toute cette histoire, cette déambulation rocambolesque à travers Londres, mais il y a un dialogue entre le père Brown et Flambeau, cambrioleur, finalement, qui par la suite allait devenir son ami. Et il lui dit comment il a compris qu'il n'était pas prêtre, parce que Flambeau s'était fait passer pour prêtre, donc clergyman. Eh bien, à cause de son attaque contre la raison, lui dit-il. Et alors, en anglais, c'est « You attacked reason, it's bad theology ». Donc, attaquer la raison, c'est une mauvaise théologie.
Donc, il sait qu'il y a une autre
donc raison. Donc, il y a une raison, oui. Voilà. Et là, je ne peux pas m'empêcher de penser à... là, je ne sais pas ce que Basile de Coche en pensera, mais c'est, il me semble-t-il, un des thèmes constants de... d'un grand théologien contemporain qui s'appelle Joseph Ratzinger, mieux connu sous le nom de Benoît XVI. Donc le thème de la raison, déjà l'encyclique Foi et raison, mais une raison justement comme ouverture au monde, comme on pourrait dire aussi, pour employer une formule qui vous est chère, cœur intelligent aussi. Voilà.
Oui, alors en effet, et en même temps, je trouve que l'intuition de Chesterton, le paradoxe génial du fou qui a tout perdu sauf la raison, trouve un prolongement philosophique dans l'œuvre d'Hannah Arendt. Car Hannah Arendt, parlant de l'idéologie, est absolument chestertonienne. D'ailleurs, Chesterton est l'un de ses auteurs de référence. Et que dit-elle de l'idéologie? C'est la logique d'une seule idée. Et elle dit que le danger... d'échanger la nécessaire insécurité où se tient la pensée philosophique n'est pas tant le risque de se laisser prendre à quelques postulats généralement vulgaires et toujours pré-critiques que, dit-elle, d'échanger la liberté inhérente à la faculté humaine de penser, donc ça ce serait l'autre raison, pour la camisole de la logique avec laquelle l'homme peut se contraindre lui-même presque aussi violemment qu'il est contraint par une force extérieure à lui. C'est extraordinaire. La camisole de la logique. Donc, pour décrire ce phénomène, elle recourt elle-même à une métaphore venue du monde de la folie. Donc, nous sommes là, c'est du Chesterton appliqué. mais appliquée à ce
et
domaine.
D'ailleurs, on pourrait, là aussi, un peu, je prolonge encore le commentaire, est-ce que ce ne serait pas plutôt l'entendement que la raison, justement?
Oui.
L'homme a tout. Le fou n'est pas celui qui a perdu l'entendement, mais qui a tout perdu sauf l'entendement. Parce qu'il faut distinguer. Enfin, voilà.
Mais ça, oui, mais
c'est, ça devient un séminaire de philosophie.
Pourquoi pas, mais
je voudrais quand même vous faire remarquer que le gag disparaît.
Oui, bien sûr.
Ce qui est
bien
redoutable sûr. Chez Chesterton.
Absolument.
Si, si non, vous non. enlevez les gags, effectivement, il ne reste pas grand-chose. Parce que ce que je vous disais, c'est qu'il est difficile de séparer le style de l'idée. Et le rayonnement de Chesterton, roi des elfes, si vous enlevez son humour ravageur, il ne reste...
Je ne veux pas du tout enlever l'humour ravageur, je ne veux pas du tout faire abstraction de son style, vous avez tout à fait raison. Hein. Je crois que la langue est vraiment le nerf de la pensée. Donc,
comme disait Jules Renard...
Absolument.
L'idée n'est rien sans la phrase « je vais me coucher ».
Oui, mais chez Chesterton, la phrase éclaire merveilleusement l'idée. Alors, parmi les thèmes chrétiens ou catholiques, je ne sais que dire, de Chesterton, il y en a un très important qui est l'humilité. Ce qu'il a découvert dans le christianisme, dans le catholicisme, c'est l'humilité. D'ailleurs aussi, on peut dire, c'est ça aussi, une humilité. L'émerveillement procède d'une humilité devant le monde. Oui, Basile de Coche.
Mais justement, c'est exactement l'inverse de cette raison dont il parle et dont il se moque, et qui, pour moi, est une folie d'orgueil. C'est-à-dire l'homme qui prétend tout comprendre avec son petit cerveau. Donc, l'humilité chestertonienne, bien sûr, c'est la médaille dont le revers est ce terrible danger de la folie d'orgueil qui menace tous les gens, y compris les gens qui remplacent Dieu par je ne sais quelle idole totalitaire et autres.
Oui, en même temps, il pense tout le temps, Chesterton. C'est-à-dire, c'est pas une humilité qui fait de lui un homme de pure contemplation, éberlué devant le monde. C'est un penseur sans cesse aux aguets. Et ce que nous aimons en lui, c'est la fulgurance de ses paradoxes, l'acuité de son intelligence. Voilà un homme qui dénonce les méfaits de la raison avec une intelligence exceptionnelle.
Oui, mais lui se veut plutôt comme une sorte d'interprète du monde magique qui est celui de Dieu et des elfes et de l'enfance.
Il y a l'esprit d'enfance, évidemment, mais il y a aussi, et là je suis tout à fait d'accord avec vous, donc l'orgueil, enfin l'orgueil, l'égoïsme, le subjectivisme, on pourrait dire, l'ego au centre du monde. Et donc, dans l'attitude de Chesterton, comme d'ailleurs dans la raison au sens fort du terme, d'une vraie rationalité, il y a la capacité à sortir de soi, justement, à se confronter aux choses, aux êtres, à autrui, dans ce qu'autrui, il y a d'énigmatique.
Ah, alors, très bien.
Voilà. Donc, je pense que si Chesterton est un critique de la modernité, un anti-moderne, c'est notamment, et là, ça rejoint des idées de pour moi, d'un des grands penseurs allemands actuels, Robert Spemann, que la modernité a procédé à ce que Spemann appelle, enfin, c'est l'inversion de la téléologie. Enfin, ce
c'est-à-dire, expliquez-les en quelques mots.
Ben, je crois que Spemann, comme d'ailleurs Chesterton, font profondément aristotéliciens et thomistes. Avant un certain moment fondateur de la modernité, je ne peux pas repérer exactement, au fond, chaque chose, chaque être était tourné vers une fin extérieure à elle et où elle trouvait son accomplissement. Bon. Et Spemann dit, il y a une inversion de la téléologie, on rabat tout sur la survie, sur l'autoconservation. Voilà. Donc c'est ça l'inversion de la téléologie. Et je suis même encore en train de lire le dernier livre de Spemann, un recueil de ses conférences, et il cite une phrase de David Hume que je ne connaissais pas, et il dit cette phrase est représentative de la pensée des temps modernes. En français, nous n'avançons jamais d'un seul pas au-delà de nous-mêmes.
Ah oui. Et Chesterton.
Crois que, voilà, tout l'effort philosophique de Spemann s'est dépassé cette posture moderne. Et de la même façon, on peut appeler ça orgueil, on peut sortir de soi, mais en même temps s'apporter soi-même aussi dans la
au-delà, aller au-delà de soi-même, la question d'autrui, je voudrais qu'on en parle un tout petit peu. Et je reviens donc à ce thème de l'humilité parce que je souhaitais l'illustrer par une réflexion absolument délicieuse sur l'habitude de parler du temps qu'il fait. D'où vient cette habitude que Chesterton célèbre, que on peut mépriser comme justement une sorte de cliché obligé. Eh bien, il dit que cette coutume salutaire part du corps et de notre inévitable fraternité charnelle. L'amitié authentique commence par le feu, la nourriture, la boisson. Elle sait remarquer la pluie ou le gel. Ceux qui refusent de commencer par le côté physique des choses sont d'ores et déjà des poseurs à la vertu, en passe de devenir des scientistes chrétiens. Toute âme humaine doit tendre vers la gigantesque humilité de l'incarnation. Tout homme doit descendre dans la chair pour rencontrer l'humanité. Bref, dans la simple remarque « Une belle journée », on perçoit la grande idée humaine de camaraderie. Donc là, je trouve qu'il y a une manière chez Chesterton de redécouvrir les vertus chrétiennes qui est tout à fait extraordinaire et merveilleusement inattendue.
Alors, dans le genre inattendu, le dernier Chestertonien que j'ai découvert par hasard, en soulevant une frite, comme on dit chez vous, comment s'appelle-t-il déjà ce penseur italien qui avait été mis en tôle par Mussolini et qui disait qu'il fallait conquérir le pouvoir par la culture d'abord? Son nom
Gramsci.
Voilà, Gramsci. Eh bien, Gramsci était Chestertonien. Il avait envoyé à sa sœur, enfin, il avait recommandé à sa sœur, depuis ses geôles, la lecture du Père Brown. Et c'est lui qui avait fait une comparaison pour expliquer à sa sœur l'intérêt des enquêtes du Père Brown entre la méthode catholique du Père Brown et la méthode protestante de Sherlock Holmes. D'un côté, il y a l'intuition du confesseur et de l'autre, il y a l'enquête du raisonneur. Et ça vient de Gramsci. Une étude comparative sur le roman policier catholique et protestant par Gramsci.
Mais à ce moment-là, Maigret fait partie de la lignée catholique, on pourrait dire aussi.
Mais alors, c'est intéressant, si vous voulez, cette galaxie chestertonienne, parce que je citais Hannah Arendt, Claudel, Peggy a été
Borges,
des premiers textes de Chesterton, Borges, donc des gens de tous bords, ce qui veut dire qu'on peut faire un bon usage de Chesterton, même si on est en désaccord avec ses positions politiques. Il est quelquefois très durement conservateur et même réactionnaire. Par exemple, et là encore, ça concerne la relation avec autrui, il était contre le divorce, tout à fait contre le divorce, mais il dit des choses à partir de là absolument géniales.
Alors d'abord, excusez-moi de vous dire que ce n'est pas réactionnaire, c'est simplement catholique.
Oui, bah d'accord, pardon. Merci de cette précision, Basile. Donc, il était catholique, mais même des catholiques aujourd'hui divorcent, et en tout cas, ça peut paraître réactionnaire, et quand on n'est pas soi-même forcément opposé au divorce, on peut faire son miel de la critique de Chesterton. Alors je voudrais là encore citer deux phrases. Poster une lettre et se marier compte parmi les rares choses qui soient restées purement romantiques, car pour qu'une chose soit purement romantique, elle doit être irrévocable. C'est absolument délicieux. Et puis cette autre phrase, et là qui donne à réfléchir sur cette question du rapport à autrui, les Américains admettent le divorce pour incompatibilité d'humeur. J'ai du mal à comprendre pourquoi ils n'ont pas tous divorcé. J'ai connu beaucoup de mariages heureux. Je n'en ai jamais connu de compatibles. Le but du mariage est précisément de se battre pour survivre à l'instant où l'incompatibilité l'emporte. Car hommes et femmes, en tant que tels, sont incompatibles.
Ça, oui, ça rejoint des phrases Jacques bien David. Connues. Oui, là, on aborde au fond, on souhaite aborder un terrain plus délicat, des reproches éventuellement adressés à Chesterton.
Oui, éventuellement, mais...
Bon, là, sur ce... cette phrase sur le divorce, le mariage, n'est pas grand-chose à dire, mais il y a des reproches qui lui sont faits que j'aimerais bien mieux comprendre, d'ailleurs,
oui, dans l'antisémitisme.
Il y a Mais j'étais tout en le relisant aussi tombé sur un passage que je trouve remarquable dans Hérétique, où il distingue entre nationalité et race. Donc il est parmi justement les aberrations déjà de son époque, il y a le racisme, la doctrine de la race. Et il oppose à la race la nationalité. Et il se lance dans un éloge extraordinaire de l'Irlande, parce que l'Irlande a conquis des races, existe comme nation. Et donc, enfin voilà, c'est une pièce que je voulais verser au dossier pour éventuellement répliquer à des critiques qui pourraient être avancées.
J'en dirai un mot, et puis après je reviendrai sur ce que Basile de Coche a appelé l'esprit d'enfance de Chesterton. Oui, il a été, ainsi que son grand ami Hilaire Belloc, et même moins que celui-ci, disons, antisémite. Parce que, comme l'a écrit Margaret Canavan, Chesterton était un populiste radical, et il dénonçait les méfaits de la ploutocratie, et parfois cette ploutocratie, sous son regard, était juive. Mais je ne crois pas qu'il faille intenter un procès à Chesterton, et surtout, il ne faut pas se rendre coupable d'anachronisme. D'autant plus que, dès 1933-34, Chesterton s'est élevé très violemment contre le nazisme. Et voici ce qu'il écrit. « Dans nos jeunes années, Hilaire Belloc et moi, nous avons été accusés d'être des antisémites radicaux. Aujourd'hui, bien que je continue à penser qu'il existe un problème juif, c'est-à-dire que les juifs sont différents, et il était à cet égard sioniste, je suis épouvanté par les atrocités hitlériennes, je ne vois aucune raison derrière elles, je vois simplement un homme qui a cherché un bouc émissaire et qui a trouvé le plus célèbre bouc émissaire de l'histoire européenne, le peuple juif, et je suis prêt à penser aujourd'hui que Belloc et moi nous mourrons en défendant le dernier juif en Europe. » Donc, il est mort avant, il a écrit ça en 1934, il est mort en 1936. Voici pourquoi il serait tout à fait déplacé, à la lumière d'atrocités qu'il n'a pas vues, de faire un procès à Chesterton, d'autant plus que ce qu'il a vu lui a suffi pour dire les choses de la manière la plus claire. Basile de Coche.
Oui, si je peux me permettre d'ajouter un truc concernant les espèces de statistiques où il disait, en gros, il disait à peu près, si je peux me permettre, comme Zemmour dit, la plupart des dealers sont noirs ou arabes, lui il avait tendance à dire la plupart des ploutocrates sont juifs ou un truc comme ça. Ça n'est pas un antisémitisme de massacre, de Shoah. C'est, si j'ose citer Bernanos avec sa phrase discutée, c'était avant qu'Hitler n'ait déshonoré l'antisémitisme.
Oui, je comprends ce que
il y a autre chose. Enfin, ce n'est pas la même chose de dire que la plupart des dealers sont noirs ou arabes, ou de dire il faut égorger les noirs et les arabes, ou gazer les juifs et dire il y a des diamantaires juifs à Anvers.
Oui, alors il ne disait pas tout à fait cela, parce que il avait parfois une vision un peu complotiste. Donc de toute façon, là, c'était peut-être les moments où il n'était pas assez chestertonien. C'est-à-dire que voilà, il était le fou qui avait tout perdu, sauf la raison, sauf la logique d'une seule idée. Mais en même temps, quand il y a eu la montée des périls, il a compris. Donc je pense que ça suffit, en effet. Alors, mais je voudrais revenir...
Oui, ben évidemment, je constate que, enfin, contrairement à ce qui était dit, je ne suis pas du tout un spécialiste de Chesterton, donc je me suis arrêté vers 1910-1911, par là, à cette première décennie éblouissante, en effet, donc les premiers livres auxquels et donc probablement que j'ignore ses écrits ultérieurs. Moi, j'aimerais bien qu'on dise encore un mot du livre sur Browning, donc le...
Oui,
si on peut le... Parce que il c'est révélateur aussi d'une de ses positions philosophiques fondamentales. Enfin, donc, en tant que, si on le considère comme philosophe, une position réaliste. Il y a une réalité extérieure à la perception humaine. Tout n'est pas illusion ou construction. Donc, à l'encontre du constructionnisme actuel. Enfin, donc, on peut tout à fait transposer. Alors, à la fin de son commentaire de l'anneau et le livre, il montre en quoi Browning et au fond, en parlant de Browning, il parle de lui-même, est à la fois en accord et en désaccord avec les esthètes, les décadents de son époque, comme il dit. Il est d'accord pour dire qu'il existe une pluralité de points de vue, d'où cette pluralité interne à ce livre extraordinaire, que chaque point de vue est intéressant, mais il est en désaccord avec eux s'il considère que tout n'est qu'illusion, qu'il n'y a aucune réalité, aucune vérité. Et alors il résume cette divergence en citant la parabole indienne de l'éléphant, auquel rendent visite cinq aveugles. L'un dit que c'est une sorte de serpent, etc., etc., parce qu'il a palpé sa trompe, et finalement, aucun, évidemment, ne peut prendre la mesure de ce qu'est un éléphant. Alors, j'ai noté cette conclusion de Chesterton, et qui, je crois, pose aussi sa propre position. Browning diffère des décadents et des impressionnistes en ce point important que, selon lui, même si les aveugles n'ont découvert que peu de choses sur l'éléphant, l'éléphant était bien un éléphant et il était bien là. Hein? Il y a une distinction essentielle entre cette conception mystique, que les aveugles se trompent parce qu'il y a trop pour eux à apprendre, donc un excédent, et la conception purement impressionniste et agnostique du poète moderne, que les aveugles se trompent parce qu'il n'y a rien pour eux à apprendre. Donc il y a une réalité, tout de même à laquelle nous avons accès, mais de manière fragmentaire, mais tout n'est pas illusion, tout n'est pas construction et fantasme de l'esprit humain.
Et il appelle ça une conception mystique. Donc on retrouve ce qu'on disait au début de son amour, de son émerveillement devant la création. Un dernier mot cependant, Basile de Coche, sur l'esprit d'enfant. Je voudrais vous livrer deux citations que vous connaissez peut-être de l'Homme éternel, à propos de Noël et de Dieu dans sa grotte. Il dit « L'agnostique ou l'athée dont l'enfance a connu de vraies nuits de Noël associera pour toujours, que cela lui plaise ou non, deux idées que les hommes pour la plupart considèrent comme contradictoires, l'idée d'un bébé et celle de la puissance inconnue qui soutient l'univers. Son imagination les rapprochera toujours, alors même qu'il ne comprendra pas pourquoi. » Et puis, un peu plus loin, Chesterton parle de la mainmise de Noël sur l'être intime des hommes, qui a quelque chose d'unique et de singulier, qui n'est pas de l'ordre des sentiments que peuvent éveiller une légende ou la vie d'un grand homme. Ce récit ne porte pas non plus notre esprit à ces idées de grandeur, à ces accroissements, à ces exagérations que produit le culte des héros, même le plus saint. Il ne nous entraîne pas davantage à l'aventure, à la découverte de merveilles aux extrémités de la terre. C'est plutôt quelque chose qui nous saisit par la partie cachée et intime de notre être, comme l'émotion qui nous étreint subitement à la vue d'un objet oublié, comme le respect instinctif du pauvre. Qu'est-ce que vous en pensez, Basile de Coche ?
Ah mais écoutez, sans me vanter, je n'en pense que du bien. J'ai noté une petite phrase, je la trouve sublime, et je crois qu'elle est à la fin de Défense du Nonsense. Cette simple question, qui est à la fois poétique et chrétienne, et si les plus vieilles étoiles n'étaient que les étincelles d'un feu de joie allumé par un enfant.
Et pourquoi cette insistance sur l'enfance, à votre avis ?
C'est ce que je vous suggérais. Tu n'entreras pas au royaume des cieux si tu ne redeviens pas un enfant. C'est-à-dire, c'est le contraire de la folie d'orgueil, de l'hubris, qui consiste à vouloir comprendre le monde et à se faire Dieu soi-même, un peu comme Lucifer. Le contraire de l'image de l'orgueil luciférien, c'est l'image de l'enfant émerveillé.
Voilà, oui. Et donc, pour qui, pour qui la vie commence.
Et donc, se terminera jamais.
Voilà. Et donc, c'est un retour à un commencement qui peut recommencer quand on le veut. Donc, finalement, ce n'est pas non plus simplement un passéiste. C'est quelqu'un qui nous fait redécouvrir la qualité extraordinaire du présent, pour être
honnête. L'émergence des choses.
L'émergence des choses.
Et aussi, je me permettrai d'insister sur l'éternité, qui n'est pas la moindre des qualités de l'œuvre de Chesterton.
Oui, en effet. D'ailleurs, il a écrit un livre qui s'intitule
L'homme éternel, vous l'avez sous les yeux.
Et il a aussi cette phrase, une autre éternité, un dogme digne de foi au XIIe siècle, nous dit-on, ne l'est plus au XXe. Autant dire de telle philosophie qu'elle est plausible le lundi, mais pas le mardi. Voilà aussi une autre image de l'éternité. Merci beaucoup Jacques De Witte, merci Basile de Coche. La bibliographie d'aujourd'hui est abondante et c'est, je vous l'assure, une promesse de bonheur. Il y a d'abord Hérétique et Orthodoxie, publié dans une nouvelle traduction chez Flammarion, dans la collection Climat. Le livre de Chesterton sur Robert Browning, publié par Le Bruit du Temps, Le Monde comme il ne va pas, édité à L'Âge d'Homme, et aussi Le Paradoxe ambulant, 59 essais, choisis par Alberto Manguel, qui devait être avec nous aujourd'hui et qui a eu un empêchement.
C'était Réplique, l'éblouissant Chesterton par Alain Finkielkraut, réalisation Didier Lagarde, première diffusion sur France Culture le 3 mai 2010. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.